L'amour de Dieu est universel. Il a englobé toute l'humanité. Nous le croyons. Il a tant aimé chacun d'entre nous qu'il en a donné la preuve en donnant son Fils unique. J'ose comprendre ce que ça a été ce moment décidé par Dieu, par Jésus. La date exacte où Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre par amour pour chacun d'entre nous. Je pense que les anges même ont plongé leur regard étonné parce que l'amour de Dieu est ineffable, incompréhensible, inégalable. On ne peut pas en mesurer la distance des années-lumière. On ne pourrait pas. C'est un amour extraordinaire qui nous prend, qui nous saisit, qui fait de nous des gens tétanisés, médusés. On se dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu aimé autant ? Je vous le prouve en vous ayant donné mon Fils unique. Et non seulement il est venu proclamer la bonne nouvelle et dire à tous, si vous êtes perdus, réalisez-le, mais je suis venu pour sauver et chercher ceux qui sont perdus. La preuve, c'est que sur la croix, dans une souffrance indescriptible, l'heure des ténèbres au rendez-vous, Jésus est en train de se laisser clouer sans un mot, mais par amour. Il pensait à toi, il pensait à chacun de nous. Et là, contenant toute la souffrance, la voulant réellement, Jésus se laisse clouer sur la croix dans une agonie, dans une terrible douleur. Dans un moment effroyable où Dieu le Père l'abandonne parce que sur Jésus sont tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité, tous nos péchés personnels, toutes les malédictions que le diable a inventées pour ruiner toutes les populations et le monde, tout est sur Jésus et le Père l'abandonne un instant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais quelle souffrance, la plus grande au monde, plus que l'enfer !» Jésus a subi cela pour que nous soyons sauvés, pour que nous connaissions l'amour de Dieu et que, en réplique, nous puissions l'aimer comme il nous a aimés. Jésus dira, comme le Père vous a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Méditez cela. L'amour de Dieu pour son Fils ne peut pas égaler tous les amours que l'on peut avoir pour nos enfants. Et Jésus dira, je vous aime autant que le Père m'a aimé. Vous le croyez ? Alors, tout change à ce moment-là. Non point que nous avons aimé Dieu, mais lui nous a aimés et a envoyé son Fils unique. Où est le mérite ? Où sont les œuvres ? Qui veut essayer de s'approcher de Dieu au nom de sa justice, de ses mérites ? Impossible. Non. C'est lui qui nous a déclaré le premier son amour. Et alors on arrive à ce commandement, ces deux commandements, qui renferment, comme nous l'avons lu, la loi, les prophètes et la grâce. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force aussi dans un autre évangile. Alors, Seigneur, comment je suis là, pris à partie, comment je vais t'aimer tant, tout mon cœur, ce qui veut dire, je ne supporterai pas que ton cœur soit partagé. Dieu ne peut supporter que ses enfants aient un cœur partagé, un compartiment pour lui, un compartiment pour le monde. Insupportable. Je veux que tu m'aides de tout ton cœur. Quiconque est né de Dieu aime Dieu. Et nous pouvons imaginer quoi que ce soit, c'est impossible, mais par l'Esprit de Dieu, parce que nous ouvrons notre cœur, parce que nous le souhaitons avec une ardeur qu'on ne peut pas désirer quelque chose de plus important, comme la soifée qui se promène dans le désert, qui ne trouve pas de quoi boire et qui dans sa soif crie son désespoir. Ainsi, nous devons ouvrir notre cœur pour dire « Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je dois t'aimer », ce qui veut dire « mon âme, c'est la raison ». C'est le siège de mes sentiments, c'est la décision avec laquelle je me suis converti. Et là, maintenant, ma décision, elle est prise. Je t'aimerai, Seigneur, plus que tout au monde. Et puis ma pensée, il y en a qui laissent flâner leurs pensées à plein de choses de la terre et qui finalement, au final, tombe dans l'angoisse, dans le malheur, dans la désespérance. Toutes les pensées du monde sont inutiles et vaines, mais il est parlé qu'il nous faut la pensée de Christ, et la pensée de Christ, c'est l'amour. Aime-moi de toute ta pensée, quand tu es au travail, quand tu es dans ta famille, quand tu es tout seul, quand tu avais les amis. Toute ta pensée doit se tourner vers Dieu qui t'a tant aimé et qui te dit « Pense à moi, pense à cet amour que j'ai pour toi. » Oui, tu peux y arriver, car je le redis, lorsque Jésus mourait sur la croix, il portait tout ce qui peut entraver l'amour que l'on doit avoir librement pour Dieu. Toutes les malédictions, tous les péchés, tout ce que le diable dans son laboratoire a préparé pour détourner la raison des gens, tout cela Jésus l'a porté en son corps sur le bois et est mort et a tout accompli pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Vous allez, nous allons y arriver. Et puis, au fond, c'est le premier de tous les commandements de la Genèse à l'Apocalypse. Tout l'enseignement est bon, c'est la parole de Dieu. Mais quand on aime Dieu, on a accompli toute la loi. Amen. La preuve d'aimer Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14, 15. Ah, vous m'aimez, mais gardez mon commandement, c'est-à-dire pratiquer. Ne vous bornez pas, comme dit Jacques dans son épître, à écouter la parole, mais pratiquez-la. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Ça, c'est la preuve. On ne peut pas dire « Je t'aime, Seigneur » et puis faire ce que le monde, dans son esprit qui a crucifié Jésus, fait. Ou faire ce que l'on faisait avant. « Je garde ta parole. » D'ailleurs, le Seigneur l'a dit quand vous n'oublierez pas de dire aux disciples, de les enseigner, de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que Jésus nous a prescrit, c'est que l'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et c'est là qu'il sera impossible de franchir la ligne rouge de faire le péché. Parce que l'amour, il est plus fort que le péché. Oui, l'amour, il est plus fort que le diable. Il est plus fort que la tentation. L'amour de Dieu dépasse tout. Et celui qui garde sa parole, quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Ses commandements, 1 Jean 5, 3, ne sont pas pénibles. Ah, et tu feras ci, tu feras pas ça. Non, tous ces préceptes sont pernicieux par l'abus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu, qui a triomphé. Alors, ce que tu me demandes, Seigneur, tu l'as déjà accompli. C'est impossible de tendre la joue à celui qui vient de me frapper sur l'autre. Mais par Jésus, dans son amour, c'est possible. Quelqu'un a pu te trahir, te faire du mal, te blesser à mort. Et peut-être, il est ton ennemi. Mais l'amour va plus loin. Tu es né de Dieu et tu peux l'aimer. Et au lieu de créer un mur, tu peux créer un pont et te réconcilier. L'amour va plus loin que tous les raisonnements humains. Mais je parle de l'amour de Dieu. On ne va pas galvauder le mot amour comme dans le monde. L'amour de Dieu, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous y venons, mais je m'arrête là pour le moment. Dieu nous demande d'aimer. C'est une dette que nous avons les uns les autres, pas seulement envers l'Église locale et les quelques cent mètres carrés là qui nous cadrent, mais aimer nos frères dans le monde entier, de quelque dénomination qu'il soit, l'amour va plus loin que toutes les considérations, que tous les clivages. L'amour de Dieu fait que je pense à mon frère, à ma sœur, je l'aime et je reconnais en elle, en lui, Dieu. Humainement, ça me coûterait, mais avec l'Esprit de Dieu, parce que je suis né de Dieu, ce commandement n'est pas pénible et je peux y arriver. Nous en arrivons à ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Jésus a aimé son prochain, déjà de venir sur la terre, en sachant ce qui l'attendait, comme il a été lu dans Ésaïe 53. Il savait ce qui l'attendait, son amour, l'a poussé à venir sauver son semblable, le prochain, dans un corps d'homme. Il est venu ainsi. Alors, la parole de Dieu dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ ». Rien de plus, rien de moins. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Il traversait le lac de Galilée, il revenait partout. Et au croisé des chemins, il rencontrera le lépreux, le malheureux, le pauvre, celui qui pleure. Et là, Jésus s'épanchera dans son amour pour porter secours à tous ceux qui demandaient grâce, tous ceux qu'il voyait. Et là, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer, nous aussi, à l'exemple de Christ. Mais quelqu'un a posé une colle à Jésus. Allez, mais dis-moi, qui est mon prochain? Et Jésus, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la faire lire. Il dira, il y a un homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. Ils l'ont frappé, ils l'ont laissé là, demi-mort. Et pendant qu'il était là à crier au secours, eh bien, est passé un sacrificateur. Quand il a vu ça, il était certainement programmé, il est passé outre. Il est passé un lévite, lui il avait autre chose à faire. Il a fait comme si ça n'existait pas. Mais un samaritain, on dit le bon samaritain, au hasard de sa route, il a vu cet homme, il l'a entendu, il a été ému de compassion, il s'est arrêté. Il a commencé à le soigner, à le mettre sur sa monture, à le porter à l'hospice, à l'hôtellerie, à donner de l'argent pour qu'on commence à le soigner bien. Et à son retour, il dira, je paierai tout ce qu'il a coûté. Alors, qui est le prochain? C'est celui qui s'est arrêté dans la compassion et qui a sauvé ce malheureux sans lui qui allait périr. Alors, nous, vous savez, nous devons aimer notre prochain comme ça. Au hasard du chemin, parfois, nous n'avons pas le temps, nous sommes surbookés, nous sommes stressés, nous sommes, conditionnés. Sachons ouvrir notre cœur à l'amour du prochain pour accomplir notre mission. Autant que je vous vois, autant vous devez être des témoins de l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit que nous devons aller de par le monde, partout, partout. Il y en a qui ont faim, qui ont soif, qui ne sont pas vêtus, qui sont malades ou en prison, qui sont étrangers. Et certains diront, mais quand, Seigneur, nous t'avons vu en prison, malade, étranger ou nu, quand nous ne t'avons pas secouru, eh bien c'est quand vous ne leur avez pas porté secours. Et les autres diront, mais Seigneur, quand nous t'avons vu malheureux en prison, étranger et affamé, eh bien, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et bien souvent, on attend quoi? On attend d'être programmé pour l'évangélisation, pour aller, pour venir. Plus que cela, au détour de tous les chemins, allez. Ma salle n'est pas encore remplie. La salle des noces n'est pas encore remplie. Allez dire à ceux, le long des chemins, le long des haies, invitez-les, contraignez-les dans l'amour, d'entrer. Ce qui veut dire, c'est que notre grande mission à chacun, c'est d'avoir le souci de l'autre et de le voir, non pas seulement comme un passant, comme un voisin, comme une personne, de voir quelqu'un d'ailleurs comme subissant avec un rapport d'information des exactions, des malheurs, des tortures. Mais il faut demander au Seigneur que la compassion nous touche au plus profond de nous-mêmes pour que nous fassions quelque chose. Il y a des pays, il y a des nations, il y a des ethnies encore, il y a des individus qui n'ont pas entendu encore l'amour de Dieu. Le comble de l'amour de Jésus mort sur la croix, ils ne le savent pas. Qui ira leur parler? Qui ira sauver les enfants? Qui ira? Qui se lèvera? Qui entendra l'appel? Que le Seigneur chauffe ton cœur ce matin. Il le fait par son amour pour que tu puisses savoir te lever et aller. Le Seigneur dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Évangéliser, sauver les autres, c'est s'investir dans le temps, dans la vie, dans l'argent. C'est ça. Et parfois, ça coûte. J'ai pas le temps. J'ai pas suffisamment d'argent. Et j'ai pas, je ne peux pas. Le Seigneur dit, donne ta vie, et par l'amour de Dieu conditionné, nous y arriverons, nous pourrons évangéliser. Quel potentiel, mais ça veut rien dire, il y a dans cette Église, quel potentiel il y a dans l'Église, dans le monde entier, pour tous ceux qui vont peut-être entendre cette diffusion. Le potentiel, c'est celui-ci exclusivement que le Seigneur a réservé pour sauver l'humanité. Je disais à ma femme en venant dans la voiture, mais si le Seigneur avait voulu, il pouvait prendre et dépêcher les anges qui, dans un vol rapide, évangélisaient toute l'humanité. Mais non, il ne le fera pas à part cas exclusif et exceptionnel. C'est toi qui dois aller. À ceci, on vous reconnaîtra de toute façon. Le Seigneur compte sur vous. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, pas seulement dans le cadre de l'église locale, c'est déjà extra. Mais l'amour va plus loin. Donne-moi les signes, Seigneur. Donne-moi les miracles, les prodiges. Gloire à Dieu, il les faut. Et ils sont promis qu'ils accompagneront la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui vous fera reconnaître, comme on reconnaît le figuier lorsqu'il a des figues sur sa branche, c'est l'amour. À ceci, on vous reconnaîtra. Déjà dans la famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos voisins, avec vos collègues de travail, avec la nation et jusqu'au monde entier, on reconnaîtra que vous avez de l'amour. Et là, certains ne diront rien, mais ils se demanderont quelle est la force. Quel est le Dieu qui vous anime tant pour les aimer? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il est dit que le Seigneur est arrivé à mettre le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Et cela veut dire que, eh bien, il s'est abaissé. Et il n'a fait aucune considération, ni même qu'il y ait Judas à qui il lavait les pieds. Eh bien, voilà que l'amour a dépassé, a pris de la hauteur pour quand même y arriver. Et le Seigneur dit que cet amour se comble. Eh bien, lui peut nous le transmettre, peut nous le déverser dans le cœur par le Saint-Esprit. Quelques composantes de l'amour. Je vous le cite, vous connaissez peut-être par cœur, mais ça fait partie de la parole de Dieu ce matin. Je vous le cite, si vous pouvez le lire, dans 1 Corinthiens 13, eh bien, faites-le aussi avec moi. 1 Corinthiens chapitre 13, vous pourriez aussi le réciter par cœur, mais on ne peut pas passer à côté de cet hymne à l'amour. Et qui, quand on le lit comme ça avec la chair, on est désespéré. Et puis tout d'un coup, on se dit, par Jésus, avec sa grâce, avec l'Esprit de Dieu, d'amour qui est en moi, je peux. 1 Corinthiens 13, verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point ou il ne médite point le mal sur les autres, il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et au verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et au verset 8, « L'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu ne meurt pas. Il est éternel. » Alors, mes frères et sœurs, j'en arrive à ce point, peut-être encore plus terre à terre. D'où le Seigneur dira, qu'est-ce qui risque de vous arriver, vous, mes enfants? Matthieu 24, 12, à cause de l'iniquité qui va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir ou diminuer. Je me suis arrêté et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'iniquité du monde incroyant qui va faire baisser leur amour. Mais il est question de nous. L'amour que nous avons et qui doit se développer, grandir encore plus, lorsque nous acceptons les pensées du monde, lorsque nous tolérons insidieusement le péché subtil qui insensiblement pénètre notre pensée, qui va s'adapter à la pensée du monde irrégénéré, où on n'a plus de réaction de haine contre le péché, où on n'a plus l'intention de lutter jusqu'au sang contre le péché, d'où le péché ne nous fait plus horreur, et qu'on baisse notre immunité, notre défense. C'est là que l'iniquité se faufile et que par voie de conséquence, l'amour s'en va. Et il est dit bien dans 1 Jean que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut plus rester en lui. Et il est bien question, vous l'avez compris, ce n'est pas que nous ne devons pas aimer les gens, bien sûr que nous les voulons les aimer, mais l'esprit, le monde entier gît sous la puissance du malin, l'esprit de Satan qui conditionne les gens à faire des choses horribles, inavouables. On ne peut pas en parler en public. Et si finalement on n'a pas cette capacité aujourd'hui, eh bien, d'y résister, eh bien, l'amour se refroidit. L'amour se refroidit. On ne voit plus que ça soit un sujet d'importance d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, parce que plein de choses sont venues. Et je dirais même, entre parenthèses, prendre plaisir à voir faire le péché par les inconvertis, c'est aussi gravissime que d'y participer en acte. Et par la télé, les films, et par les vidéos, et par toutes sortes de choses mauvaises qui se présentent sous nos yeux, et par le voyeurisme, si on ne réagit pas, on perdra de toute façon l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer le péché qui nous a montré le scandale de la croix. Pour nous, il est mort pour nos péchés. Donc, si l'iniquité s'accroît, arrêtons l'iniquité et la croissance en nous, réagissons par la sainteté envers le Seigneur que l'on lui doit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là aussi, je m'arrête, Apocalypse 2:4. Qui nous a aimé le premier? Qu'est-ce que ça veut dire le premier amour? Il nous a aimés avant qu'on naisse. Il nous a aimés de toute éternité. Celui qui nous a déclaré le premier l'amour, c'est Dieu. Et si tu as abandonné ton premier amour, ça veut dire tu as abandonné Dieu. Il est dit dans Jérémie 2:2, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancé, mais maintenant tu t'es tourné vers les choses de néant, vers ce qui ne rapporte rien. Tu ne m'aimes plus comme avant parce que tu t'es tourné vers des riens, des accessoires, du néant. Quelle est la nation qui changerait ses dieux? Mais toi, tu m'as laissé, moi l'Éternel, qui t'ai aimé. Combien nous avons à regarder, comme je le disais au début, est-ce que vraiment tout notre cœur est pris par l'amour de Dieu? Est-ce que notre cœur n'est pas partagé? Est-ce que nous pensons ne pas être comme Israël au temps d'Élie ? Il clochait d'un côté, de l'autre. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Mais si c'est Baal, allez vers lui. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et quand le Saint-Esprit dit à l'église d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », Dieu lui dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi, éveille ta mémoire. Ton devoir de mémoire, c'est de te demander si tu aimes le Seigneur comme à un certain moment tu l'as aimé. Et si vraiment tu ne l'aimes pas comme tu l'as aimé, arrête-toi et il va te montrer l'idole. Petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idole, ça peut être toi-même, ton ego. L'idole, ça peut être quelqu'un. L'idole, ça peut être l'argent. L'idole, ça peut être ta notoriété, ton désir de montrer, m'as-tu vu ? Que sais-je ? L'idole, c'est ce qui a remplacé le vrai Dieu dans ton cœur. Tu ne m'aimes pas. Alors, souviens-toi. Si tu le veux, tu te repens. Et le Seigneur te pardonnera et tu retrouveras l'amour de Dieu plus que jamais. Et puis, vous savez, il y a aussi quelque chose. Le Seigneur dira dans le signe de son retour qu'il y a des personnes que parce qu'il dira « Comme mon maître tarde à venir, il s'est mis à battre ses serviteurs. » Et alors le maître arrivera au moment où il n'y pense pas et le mettra en pièces, et dans l'endroit où il y a les cris et les grincements des dents. La violence de partout dans le monde qui grandit. Faisons attention que parce que le Seigneur n'est pas encore arrivé, et que peut-être on veut mettre le déni, ils veulent ignorer qu'il reviendra en disant « Non, il ne reviendra pas !» Et le temps de Noé, et le temps de Sodome et Gomorre, ils veulent ignorer. Le maître tarde, mais toi reste dans l'amour pour ton prochain, reste dans l'amour pour ton Dieu. Il tarde, mais qu'il te trouve plein d'amour, parce que l'amour te met dans les profondeurs, dans la hauteur, dans la largeur, dans la longueur, jusqu'à la plénitude de Dieu. Il veut que tu sois dans cet amour, dans cette attente, que de gens se déchirent, que de gens se font du mal, que de gens se font de la peine, que de gens font des choses criminelles. Mais nous, Seigneur, même si tu tardes, je suis pressé des deux côtés, mais j'ai envie encore de rester pour être un porteur de ton amour. Et si tu tardes, c'est pas en m'enlisant dans le péché que je vais t'attendre, mais c'est en participant à ta sainteté et à ton grand amour, Seigneur. Et puis, vous savez, on pense que, finalement, l'amour, c'est bien. Il y a bien d'autres choses à parler, de sujets bien plus près de nous aujourd'hui. Mais je crois que l'amour répond à tout. L'amour de Dieu répond à tout. L'amour de Dieu dénoue les nœuds. Et les situations irréversibles peuvent être guéries. Des blessures peuvent être guéries par l'amour de Dieu. Et ce matin même, en entendant la parole de Dieu de son amour. Mais je veux quand même vous dire, il est dit, vous devez payer votre dette. Votre dette, c'est que tu dois l'amour de Dieu à tous. À tous tes frères, à toutes tes sœurs, à tout ton prochain, à tes semblables, à toute l'espèce humaine. Tu as une dette et nous devons la payer. Car celui qui aime son prochain, il a accompli toute la loi. C'est écrit. Amen. Et puis, cela importe. Ce qui veut dire, c'est plus important que tout. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes et que c'est l'heure de se réveiller. Alors, souvent j'ai prêché, c'est l'heure de se réveiller. Mais parfois, volontairement ou parce que c'était le sujet, j'ai laissé ce qui est en haut. Je me dis que la connexion entre le réveil et l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là que le réveil éclatera. Parce que souvent, on ne pardonne pas, on se déchire, on creuse encore plus le fossé. Et le Seigneur a dit, tant que tu es en chemin, accorde-toi avec ton adversaire, pardonne, aimez vos ennemis. Et je crois que ça, c'est la grande préoccupation. N'aimons pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Et quand ce verset est cité, il est dit, si tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui fermes tes entrailles, toi qui pouvais l'aider, comment l'amour de Dieu peut-il rester encore avec toi? Et parfois, on traverse le monde et on arrive au terminus sans se rendre compte de tout ce qu'on a laissé pour compte. C'est l'heure de se réveiller et de se dire, Seigneur, ça importe maintenant, j'en ai assez de dire « je t'aime » si dans ma vie pratique, je ne le prouve pas. Et Seigneur, toi, tu vas m'aider sur le terrain à concrétiser l'amour de Dieu. Amen. La foi diminue souvent par manque d'amour, puisqu'il est dit que la foi est agissante par l'amour. Il est dit dans Galates, la foi agit par l'amour. Si je n'aime pas le Seigneur, je commence à douter de lui, je commence à ne plus lui faire confiance, je commence à prendre appui sur l'homme. La foi est agissante par l'amour. Plus je t'aime, Seigneur, plus ma vie maintenant te fait confiance pour tout. Comme le disait Georges Muller, quand je commence ma journée en prière, je lui apporte mes petits détails de ma vie. Mais rien comme les plus grandes choses où j'ai 3000 orphelins à nourrir et je ne sais pas comment, mais je fais confiance à Dieu pour tout, pour les plus grandes choses qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer, parce que Dieu est honoré, car Dieu est un Dieu grand, il est honoré quand on lui demande de grandes choses, mais aussi des petites choses de la vie, vous savez, ce petit grain de sable dans le rouage qui grince et qui empêche et qui fait qu'on est de mauvaise humeur toute la journée. Mais la foi nous permet de nous décharger de tous ces soucis, de tous ces fardeaux, et le Seigneur en prendra soin, parce qu'il veut que maintenant, plus on l'aime, plus on lui fait confiance. Alléluia. Vous savez, je vais bientôt m'arrêter, j'avais beaucoup encore à dire, mais Dieu est amour. Dieu est amour, c'est lui qui nous a aimés le premier. Christ nous a aimés, il a tout acquis pour nous. Et puis, cet amour dont je vous parle, il nous laisse comme béat, comme sans force. Et puis, quelque chose me dit, le Saint-Esprit en toi. Nous n'avons pas à être timides, mais il veut vous remplir du Saint-Esprit d'amour, de force et de puissance. C'est-à-dire que quiconque douterait ce matin qu'il peut aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force, sa pensée, son prochain comme lui-même, eh bien le Seigneur dit, allez, ne doute pas, je vais faire ça en toi, parce que toi tu te disposes, tu le crois, tu le demandes et tu le cherches, et je vais déverser dans ton cœur l'amour par le Saint-Esprit. C'est vrai. Alors, au final, la vie et tout ce qui nous arrive, faites confiance. Vous allez le dire avec moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile avec la raison, c'est difficile avec nos calculs mathématiques, mais c'est facile quand on aime Dieu et qu'il nous dit, tu vois ce qui t'est arrivé, c'est venu comme un télescoper ta vie comme un chagrin, comme une angoisse, ça te dérange. Et tu dis, je ferai avec, mais attends, je vais te dire, puisque tu m'aimes, je vais arranger tout pour qu'au final, ça te serve pour ma gloire. Alléluia. Alors Seigneur, au lieu de me plaindre, au lieu de maugréer, Au lieu de trouver toute chose pour râler, je vais commencer, Seigneur, à me mettre en règle dans un grand amour pour toi, et je vais te louer parce que ce qui peut m'arriver dans les choses de la vie, ça arrive aux uns aux autres, ça m'arrivera peut-être, mais parce que je t'aime, tu le feras concorder à mon bien éternel. L'amour de Dieu est éternel. Et comme nous l'avons entendu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les puissants, ni les hauteurs, ni le diable, ni le monde, ni les 7 milliards qui pourraient se liguer contre nous, ils ne le feront pas. Aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il faut dire, oui, j'ai l'assurance. Car l'apôtre Paul a repris cela et il dira, j'ai l'assurance. Sans quoi, tout tombe en désuétude en se disant, qu'est-ce qui risque à m'arriver demain? Dieu a des projets d'un bel avenir pour toi. Pourvu que tu l'aimes, pourvu que tu aimes ton prochain, pourvu que tu crois qu'il va t'aider et te remplir de son amour, il a des projets de paix et d'un bel avenir. L'avenir, il est beau. Il est un ravissement extraordinaire et éternel. Quand quelqu'un décède, on dit il est décédé. Mais si c'est un chrétien plein d'amour, l'amour est éternel, l'amour n'est pas mort. L'amour reste, l'amour le suit, l'amour est dans le ciel. Les œuvres qu'il a faites dans l'amour, ici-bas, le suivront. Toutes les œuvres de la chair qu'il aura faites ici-bas, c'est du vent, ne le suivront pas. Le coffre-fort ne suivra pas. La renommée, les diplômes, la réussite, la notoriété, tout cela ne suivra pas. Mais ce qui va te suivre et que tu auras fait dans l'amour, ça sera éternel dans le ciel. L'amour de Dieu est éternel. Alors, je termine, le Seigneur dira ce qui semble l'apogée et l'impossibilité. Il dira, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le mot haine, c'est pas ça. Un jour, la petite fille dit à sa maman, est-ce que tu préfères, tu aimes plus Jésus ou moi? Et la maman lui a répondu, plus j'aime Jésus, plus je t'aime. Alors elle a dit, aime beaucoup Jésus. Plus nous aimons Jésus, plus nous aimerons notre père, notre mère, s'ils sont en vie, notre frère, notre sœur, nos enfants, notre femme, notre conjoint. Plus nous aimerons Jésus, plus l'amour sera là dans le foyer, dans le cocon familial, dans le voisinage et partout dans le monde. C'est là que le Seigneur dira, si quelqu'un ne me préfère pas, ne me met pas la place de choix, d'amour, de haut niveau dans son cœur, eh bien le contraire, c'est qu'il n'aura pas l'occasion de vraiment bien aimer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses voisins, son semblable. Voyez-vous, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour qui coordonne, qui soude la famille, qui nous permet d'aimer tout le monde. Et même si, comme un boomerang, ça nous revient par la haine, l'amour prend de la hauteur et arrivera encore à juguler ces problèmes-là. Et puis, c'est fini. J'avais encore autre chose à dire, mais ça, je vais le dire. Les êtres humains, d'ailleurs, tous ceux qui sont sur la planète, peut-être plus de 7 milliards maintenant, ont droit à l'amour de Dieu, oui. Et ils ont droit à votre amour. Et là, j'en viens à me dire, Seigneur, 2 Timothée, où il est écrit « Dieu veut que l'on prie avant toute chose pour tous les hommes, toute l'espèce humaine, tous nos semblables, quels qu'ils soient, qu'ils soient en prison, qu'ils aient fait l'irréparable, priez, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et j'en reste là. » On est trop délicat en disant « tout le monde ne sera pas sauvé parce que le millénium, parce que ci, parce que là. » Et puis, on fait ça d'une manière détachée, ça me pèse. Et je veux que l'amour de Dieu nous pèse au point que vous deveniez tous des hommes, des femmes de prière, des intercesseurs. Jésus intercède encore pour les coupables alors qu'il est ressuscité, glorifié. Et il veut qu'on s'allie à lui pour que nous puissions être des hommes, des femmes de prière. Que de temps gaspillé, que de temps perdu, combien les gens aujourd'hui ont programmé un an avant pour nous passer les films de ce soir, et puis le temps est gaspillé, et le temps est plus maîtrisé, c'est le monde qui nous a, mais si aujourd'hui, d'une manière déterminée, au nom de l'amour, de son amour, nous nous arrêtons et nous disons « Seigneur, tout ce temps-là, je vais le passer dans la prière pour les gens qui ne sont pas encore sauvés, qui vont droit dans le gouffre béant de l'enfer. Je vais prier jusqu'à l'agonie que tu veux mettre dans ton amour au fond de mon cœur pour que les âmes soient sauvées. » Alors, au nom de l'amour de son amour, nous aurons vécu sur la terre comme le Seigneur a voulu que l'on vive. Et ça, c'est la plus grande des gloires qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu peut désirer, c'est de se dire que même s'il a été un ouvrier inutile, même s'il n'a fait que ce qu'il fallait faire, en tout cas, il l'a fait conditionné par le grand amour de Dieu qui lui donne d'aimer son prochain. Priez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'à un certain moment, la prière a un mystère, vous ne pouvez pas vous imaginer que l'homme qui est dans les antipodes, là-bas, tout seul, peut-être sur une île, peut être visité par le Seigneur. Le Seigneur pourra envoyer un bateau, un avion, un messager, et puis même dépêcher, comme je disais tout à l'heure, exceptionnellement, un ange, une vision, un songe. Mais pourquoi il y a eu à la base des intercesseurs qui se sont préoccupés de ceux qui vont en enfer? Et le Seigneur s'en sert. Que Dieu nous aide. Le plus grand de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le deuxième, dira Jésus, et ton prochain comme toi-même. Seigneur, aide-nous à vivre l'amour que tu veux distribuer au fond de notre cœur. Et là, on se sent défait, impossible. Mais voilà que tu nous dis, c'est par le Saint-Esprit, toi-même qui viens habiter chez nous, pour continuer à aimer comme tu as tant aimé. Visite chacun de nous pour que nous le croyions, que nous ne laissions pas tomber la parole de Dieu à terre, mais que nous la recevions, nous la gardions et nous la pratiquions. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.